Mais je pense aussi que ils sont nombreux, elles sont nombreuses ici dans cette salle, et qui ont pu réaliser une fois au moins, et ça peut être d'autres, dans leur existence, ce que, pour mon compte, j'ai réalisé plusieurs fois dans des circonstances très angoissantes. Quand on est là, comme au bord d'un gouffre, comme on est là quand on arrive à l'extrême détresse. Il y a des moments qui sont comme cela dans la vie. Bien des jeunes auront peut-être à l'apprendre, et quelques-uns l'ont appris peut-être déjà. Mais des moments où on se sent véritablement sans aucune ressource et exposé quelquefois à un danger, soit moral, soit matériel, contre lequel tout l'être se trouve tremblant et impuissant. Et puis, si faible que soit notre prière, brusquement, la paix de Dieu inonde nos cœurs. C'est une expérience bien précieuse et que Dieu nous donne d'en réaliser de semblables. Alors ici, c'est la paix de Dieu qui garde alors vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Les cœurs et les pensées, alors, d'une manière générale, tout ce qui vient nous occuper, inquiétude ou pas. Nous disions un de ces jours, le cœur, l'esprit, disons l'âme, de manière très générale, cela ne peut jamais rester vide. Vous ne pouvez pas imaginer le néant absolu. Ou bien c'est le sommeil, n'est-ce pas, et encore est-il ses rêves. Mais, ou bien c'est le sommeil, ou c'est la mort. Mais que l'esprit ne soit pas occupé par quelque chose, c'est inimaginable. Alors, nous avons le paragraphe suivant. Et c'est que il faut que nous nous rendions compte de ce que notre esprit contient, de ce dont il est rempli, de ce dont nous sommes occupés habituellement, de ce qui monte dans nos cœurs et nos pensées, dans nos esprits, dans nos moments d'inoccupation professionnelle, ménagère, des choses quotidiennes qui, évidemment, doivent détourner notre attention passagèrement. Mais quand nous sommes là et dans nos loisirs, qu'est-ce qui occupe notre esprit? Qu'est-ce qui monte à notre esprit? C'est une sérieuse question à nous poser. Et chacun, je pense, à reconnaître bien des manquements à cet égard. Il est rempli des bonnes choses ou il est rempli des mauvaises. Il peut y avoir un mélange des choses que nous ne discernons pas, parce que nous manquons de discernement spirituel, mais le bien et le mal sont toujours là, opposés. Alors, il s'agit, et c'est l'exhortation que nous avons dans ces versets 8 et 9, si importants, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Il y a une occupation de la forteresse dont je parlais tout à l'heure. Elle est gardée extérieurement. La paix de Dieu est là pour la garder. Mais si nous ne nous laissons pas garder, et si nous errons loin de ce qui est notre lieu de refuge, notre forteresse qui est le Seigneur lui-même, et l'occupation de ce que nous avons dans le Seigneur et de ce qui peut être reflété sur cette terre, dans des hommes, dans les siens, dans ceux qui lui appartiennent, Et ce sont toutes ces choses qui nous sont présentées, sur lesquelles on peut revenir, on va revenir, mais dont l'ensemble est quelque chose de si élevé, de si précieux aussi à considérer, et que nous avons à voir autour de nous, que nous avons à relever partout où la grâce de Dieu le manifeste, partout où nous le trouvons, en particulier, mais dans nos proches, dans nos frères, nos sœurs, ceux avec lesquels nous marchons, plutôt que d'être occupés de ce que nous trouverions à reprendre en eux. Et cela est bien plus naturel, hélas, à nos cœurs. Nous sommes beaucoup plus occupés du mal que nous ne sommes occupés du bien. Or, la source de toute énergie, le secret de toute énergie, c'est encore nos bénéfrères qui écrit cela, le secret de toute l'énergie et finalement de toute la vie pratique chrétienne, c'est d'être occupé du bien et encore du bien. C'est assez quand le mal nous est présenté qu'il faut s'en occuper. En étant occupé, n'est-ce pas, que ces choses occupent vos pensées. Que vous avez appris, reçu, entendu, vu en moi, faites alors ces choses. Si vous êtes occupé d'elles, bien, tout naturellement, vous les ferez. Et alors, non seulement la paix de Dieu remplira et surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, mais le Dieu de paix sera avec nous. Je ne pense pas qu'on puisse établir une gradation, une différence de niveau entre les deux expressions, la paix de Dieu gardant vos cœurs et vos pensées, le Dieu de paix avec vous. En réalité, l'une et l'autre de ces choses sont également et sont divinement précieuses. C'est toujours ce qui nous est procuré dans le Christ Jésus, mais les pensées et les affections de Dieu lui-même, comme Dieu de paix.
Ces sont cachés aux yeux de nos semblables. Pour l'homme, encore dans ses fautes et dans ses péchés, il y a un verset du livre de la Genèse qui doit le rendre sérieux et à la pensée que Dieu connaît ses pensées. Nous lisons en Genèse 6, « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, » c'est le verset 5, « et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'étaient que méchanceté en tout temps, c'est-à-dire à la note tout le jour. » Voilà quelque chose de sérieux. Nos pensées sont inconnues de nos semblables, mais même pour l'homme, loin de lui, il les connaît. Et ce qu'il déclare est la vérité. Elles sont mauvaises en tout temps. Pour le croyant, dans le psaume 139, il fait une prière à Dieu qui devrait être la nôtre, et cela nous amènerait à considérer nos pensées au crible de Dieu. Au psaume 139, il est dit au verset 2, « Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. » Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher. Tu es au fait de toutes mes voies. Et à la note petit c, il est dit, tu cribles. Dieu crible donc ce qui est caché aux yeux de nos semblables. Mais nous trouvons aussi là une ressource précieuse. Et le psalmiste l'exprime à la fin du psaume. Il dit au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. »
Pas penser que il y a une intention de l'Esprit de Dieu à parler d'abord des choses qui sont vraies. Peut-être que nous-mêmes, nous aurions d'abord parlé des choses vénérables ou des choses aimables, mais l'Esprit de Dieu parle d'abord des choses qui sont vraies, des choses qui ont trait à la vérité, des choses qui ont trait à celui qui est le Dieu vivant et vrai. N'est-ce pas, n'y a-t-il pas une intention de l'Esprit de Dieu pour que les choses vraies soient mentionnées en tête de ces six caractères des choses qui doivent occuper nos pensées?
Partie de l'armure du croyant, c'est la ceinture de vérité, ayant ceint vos reins de la vérité. Et qu'est-ce qui nous est présenté de vrai, de véritable dans la parole, sinon la personne du Seigneur Jésus? Lui est le Dieu véritable, trouvons-nous à la fin de l'épître de Jean, le premier épître de Jean, au chapitre 3 de l'Apocalypse, à propos de Philadelphie. Il est présenté comme le véritable. Et lui-même a dit, « Je suis la vérité. » C'est donc une chose capitale, et on comprend qu'elle soit initiale ici, mais que ce qui est appelé les choses vraies, on a fait remarquer que l'apôtre qui parle le plus de l'amour, celui qui dont les écrits sont remplis de cette expression, l'amour ou l'équivalent, parle de façon à peu près égale, un nombre à peu près égal de fois, de la vérité et de ce qui est vrai, qu'il s'agisse des épîtres ou de l'évangile de Jean. L'un ne va pas sans l'autre, l'amour dans la vérité et l'amour étant vrai dans l'amour. Alors les choses qui sont vraies.
Chose vraie, Christ qui est la vérité, révélé dans la parole de Dieu qui est la vérité, et enseigné par l'Esprit de Dieu qui est la vérité.
L'apôtre se présente là en quelque sorte comme imitateur, parce que on pourrait dire, mais en dehors de la parole de Dieu, en dehors du domaine des choses spirituelles, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont vénérables, qui sont aimables, qui sont pures, etc. Certainement, personne ne voudrait le nier, mais il n'y a pas cette pensée dans ces versets 8 et 9. Cela est confirmé, elle a été donnée à notre cher traducteur de mettre le signe de ponctuation souhaitable au verset 9, que ces choses occupent vos pensées, deux points, ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu en moi. L'apôtre était occupé constamment des choses qui sont vraies, vénérables et des autres choses. Eh bien, ce que vous avez pu voir en moi, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, eh bien, faites ces choses. Et alors, en goûtant ces choses qui sont vraies, les autres choses vous goûterez combien douce est la présence du Dieu de paix. Le Dieu de paix sera avec vous. Voilà ce qui doit occuper nos pensées. Toutes ces choses mentionnées sont en rapport avec Dieu, avec sa parole, avec son esprit. Et il a été donné à l'apôtre Paul de le réaliser d'une façon remarquable. Eh bien, comme lui était occupé de ces choses, soyons nous-mêmes occupés de ces choses. Alors, il nous sera donné de goûter combien précieuse est la présence du Dieu de paix.
Est donné pour nous, pour respirer une telle atmosphère présentée dans ces versets. Une atmosphère dans laquelle Dieu se révèle, se fait connaître. Une atmosphère qui nous délivre de nous-mêmes et qui fait que nous sommes ainsi remplis de ce qui est propre à nous édifier, à nous consoler, à nous encourager.
Le psalmiste au psaume 19e termine dans le verset 14 en disant comme prière à Dieu que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. La méditation de mon cœur, et c'est de cette méditation du cœur, de ces pensées intimes, que surgiront ensuite les paroles. Puissions-nous rechercher donc ce qui nous est proposé dans ces versets 8 et 9, et alors, dans nos conversations, même dans les choses courantes, dans nos rapports fraternels, dans nos liens de famille, de voisinage, ou de quelque autre nature, nous complairons à nous entretenir de ce qui occupe nos pensées, et si ce sont des choses vraies, des choses vénérables, des choses justes, des choses pures, des choses aimables et des choses qui sont de bonne renommée, où il s'y trouve des vertus, des louanges, et alors quelle bénédiction il y aura dans nos rapports fraternels. Il n'y aura place ni pour la médisance, et encore moins pour la calomnie.
C'est important de la réalisation de ces choses, du contact avec ces choses qui sont saintes et pures, elles sont divines. Un des résultats, c'est que nous gardons, et c'est très important plus que jamais, nous gardons une conscience délicate. Parce que la conscience s'habitue au mal, on s'endort. Tandis que le contact avec ce qui est pur, avec ce qui est saint, nous tient toujours en éveil, et crée et nous donne une conscience délicate. Nous n'avons qu'à lire les épîtres de Paul, combien il désire, combien il souhaite que nous gardions devant Dieu une bonne conscience. Une bonne conscience. Et c'est ainsi dans la réalisation de ces choses que nos consciences sont exercées devant Dieu. Et alors ce que nous désirons, quand nous sommes en contact avec ces choses, quand nous sommes avec Dieu, quand nous sommes ainsi en communion avec lui, ce que nous désirons, c'est ce que nous avons lu dans ce psaume 139, nous désirons, ô Dieu, Dieu de toute grâce, sonde-moi et connais mes pensées. Sonde-moi et éprouve-moi, ce que sonde-moi et connais mes pensées. Et alors, regarde en moi s'il y a quelque voie de chagrin et conduis-moi dans la voie éternelle. Et la voie éternelle, c'est Christ. C'est Christ. Combien nous avons besoin, justement, d'être exercés à cet égard pour que nous puissions réaliser un peu ce qu'est la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de connaître bien des choses. On ne connaîtrait qu'une vérité. On la mettrait en pratique. On la vivrait. Eh bien, ça serait déjà une chose si précieuse pour nos cœurs. Et on serait peut-être certainement spirituellement plus avancé que ceux qui connaissent peut-être beaucoup de vérités, mais qui ne les mettent pas en pratique. Parce qu'une chose importante, et plus que jamais, c'est quand Dieu nous met devant une vérité, c'est dire devant lui, en droiture, Où est-ce que j'en suis à ce moment?
De la corrompue qui se trouve en nous, le cœur est désespérément malin, le cœur est incurable, et c'est du cœur de l'homme que sortent, c'est la première chose que le Seigneur dit dans l'évangile de Marc au chapitre 7, du cœur de l'homme au verset 21, du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées. Il y aura toujours cette source active en nous. Comment faire pour en être délivré? En nous efforçant de chasser ces pensées qui nous obsèdent, nous allons connaître les défaites successives. Nous ne pouvons pas, par notre propre effort, par nos propres forces, par nos dispositions, si sincères soient-elles, éliminer ce mal qui est en nous. Il est en nous comme la source corrompue des pensées du cœur naturel. Mais nous avons une ressource. Nous pouvons tenir dans la mort ce vieil homme, cette chair de péché qui se manifeste dans notre cœur par toutes sortes de pensées corrompues, mauvaises. Alors, pour éviter d'être atteint par ce mal, nous avons entendu quelquefois, il convient de le répéter, le mal en moi ne nous donne pas une mauvaise conscience, à condition de le juger dans la lumière, devant le Seigneur, dès qu'il se manifeste. Le mal en moi ne me donne pas mauvaise conscience. C'est une occasion de communion avec le Seigneur. Seigneur, voilà ce mauvais cœur qui se met à me séduire. Je crie au Seigneur pour avoir la force, pour avoir la ressource de tenir dans la mort, qu'il m'accorde la grâce, psaume 139, qu'il m'accorde la grâce de pouvoir tenir dans la mort cette source qui ne cesse de vouloir se manifester, et me voilà délivré. Le péché en moi ne me donne pas mauvaise conscience, c'est le péché sur moi qui me donne une mauvaise conscience et qui me prive de la communion. Mais pour que le péché soit sur moi, il y a eu tout un mécanisme qui est intervenu. J'ai donné audience à la mauvaise pensée, à la convoitise qui est excitée en moi par l'ennemi, par les puissances spirituelles de méchanceté. Et la convoitise ayant conçu, elle enfante le péché avec les conséquences qui suivent. Dans le livre de Josué, il y a un exemple qui peut être cité sans doute et qu'on a souvent rappelé. Josué, en parlant de Jéricho, dit « Tout doit être anathème, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tout est du monde et nous en sommes délivrés. Mais la délivrance du monde, la pression du monde, la délivrance de la chair, la délivrance de moi-même, la délivrance de la loi, c'est dans la mort de Christ. Alors Josué dit, tout sera anathème, tout doit être détruit, sauf les vases d'argent, les vases d'or, les vases de fer. Et Josué applique ce que nous trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 31. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain, le plomb, tout ce qui peut supporter l'épreuve du feu pouvait être pris par les Israélites et apporté en offrande à l'Éternel. Tout ce qui peut supporter l'épreuve du feu, les choses vraies, les choses vénérables, les choses bonnes, elles peuvent supporter l'épreuve du feu. Mais tout ce qui était autre chose était anathème à l'Éternel, et nous connaissons à cet égard l'histoire d'Achan. D'autre part, nos frères nous ont aussi parlé de la nécessité qui arrive de s'occuper du mal. C'est un triste devoir. Il n'y a rien qui nous dessèche comme le fait d'avoir à nous occuper du mal, comme devoir. Et un enseignement remarquable se trouve précisément pour les sacrificateurs qui avaient à s'occuper du mal, s'occuper d'un cas de lèpre, par exemple. Dans le chapitre 18 du livre des Nombres, chacun peut lire cela. Avant de manger le sacrifice pour le péché, avant de s'occuper du mal, parce qu'il le faut pour la gloire de Dieu, pour la sainteté à la table du Seigneur, à maintenir à la table du Seigneur, que doivent manger les sacrificateurs? C'est une chose remarquable, celle-là. Car nous occuper du mal nous dessèche, nous affaiblit. Même si nous le faisons par devoir, avant de manger un sacrifice pour le péché ou un sacrifice pour le délit, faut d'abord manger l'offrande de gâteau, nous nourrir de ce qui est excellent, des choses excellentes entre toutes, liées à la personne de Christ, ce qui est vrai, ce qui est vénérable, tout ce qui a été vu en perfection dans la sainte nature humaine du Sauveur. Voilà l'antidote pour pouvoir aller de l'avant, même si nous avons à prendre contact avec le mal.
C'est commandé à ces chers Philippiens, c'est ce que nous recevons de l'apôtre, et c'est aussi, et en même temps, le secret pour marcher au milieu de ce monde. Ils avaient, et nous avons, à faire toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin, dit-il, que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de la vie. Ces choses excellentes dont nous sommes appelés à nous occuper, à avoir l'esprit occupé, que ces choses occupent vos pensées, sont précisément en contradiction avec tout ce qui caractérise le monde ici-bas. Et ce qu'il caractérise, ce sont les convoitises, et les convoitises, ce sont celles de nos propres cœurs, de cette vieille nature dont il vient d'être parlé, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et tout est en contraste avec cela. Les choses qui sont vraies, mais nous sommes dans un monde de mensonges, et l'homme naturel est menteur, et le cœur est menteur, un monde de mensonges, un monde d'erreurs. Où est la vérité? Car la vérité suppose l'erreur. Il n'y aurait pas lieu qu'il soit question de vérité s'il n'y avait pas d'erreur. Et nous voyons où est la vérité, elle vient d'être rappelée. Alors toutes les choses qui sont vraies, en opposition avec tout le mensonge de ce monde, et le mensonge de nos propres cœurs étant jugé. C'est de toute importance cela. Voilà les choses qui sont vraies. Nous avons ensuite les choses qui sont vénérables. C'est un terme à peu près intraduisible en français, exactement. On peut chercher des approximations, mais vénérable rend bien, mais encore insuffisamment. C'est ce qui a le caractère de haute dignité et en même temps de gravité. Oh, non pas de tristesse, non pas d'abattement, non, ce n'est pas cela. Mais la dignité et la gravité, la solennité, si l'on veut, qui s'attache aux choses, eh bien, aux choses divines. Ce qui caractérisait Seigneur Jésus ici-bas, ce que les siens sont appelés à refléter. Le terme de noble qu'on trouve employé dans certaines versions se rapproche peut-être encore davantage que le terme vénérable. Mais nous concevons un peu de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Qu'il y ait dans nos pensées cette notion, plus que cela, cette conviction que les choses dont nous avons à nous occuper sont d'une toute autre qualité, d'une toute autre hauteur morale que tout ce qui est dans ce monde, même ce que les hommes vénèrent le plus, car on vénère bien des choses dans ce monde, à commencer par des idoles, morales ou matérielles. Alors les choses qui sont vénérables, les choses qui touchent à la dignité et de Christ lui-même.
Et si mes pensées et mon cœur errent dans ce monde, où mon cœur est distrait, je ne découvrirai pas des choses. Ça suppose un exercice spirituel, une dépendance de l'esprit et surtout un désir dans mon cœur. C'est le désir de marcher avec Dieu. Et alors je rechercherai ce qui justement manifeste devant moi, dans mon cœur, ce qu'est Dieu, ce que sont les choses célestes, ce que sont les choses du ciel, tout à fait en opposition avec les choses de la terre. Quand un chrétien se laisse aller dans ses pensées, son cœur, dans ce monde, il erre, il se fourvoie. Son domaine à lui, c'est les choses célestes. Et c'est tout ce qui porte le caractère de ces choses célestes. Comprenez très bien que nous ne pouvons pas réaliser la présence de Dieu. Dieu ne peut pas être avec nous si nous sommes occupés des choses terrestres impossibles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un péché sur la conscience sans être jugé. Il ne vient pas en imputation parce que Christ l'a porté. Mais ma communion avec Dieu est interrompue. Et la première chose que je dois faire quand il en est ainsi, c'est d'aller à Dieu et confesser. Il ne faut pas attendre, parce que puis une autre faute arrive, et ainsi de suite, et la conscience s'endurcit à tel point que souvent il faut que Dieu intervienne, et d'une manière des fois douloureuse. Donc c'est important pour nous, cet exercice spirituel, dans la dépendance du Saint-Esprit, de découvrir ses choses, et d'en connaître le prix et la valeur, pour les désirer.
Et cité tout à l'heure, se trouve au chapitre 32 et au verset 8, l'homme noble se propose des choses nobles et il se maintiendra par des choses nobles. Alors, nous sommes là exhortés à nous rappeler quel genre de personne nous sommes par grâce, ce que Dieu a fait de nous. Il nous a placés parmi les nobles, pris de dessus le fumier, il élève le misérable, il le fait asseoir avec les nobles. Ce que Dieu a fait de nous. Nous ne pouvons pas nous occuper de n'importe quoi en raison de ce que nous sommes. Et voilà qui nous invite, n'est-ce pas, à nous occuper d'une certaine catégorie de choses. Il y a une nourriture propre à l'enfant de Dieu. Sinon, il descend au niveau de ceux dont il ne fait plus partie. La nature même nous enseigne cela, si l'on veut, dans une ruche, n'est-ce pas, il y a une nourriture spéciale pour la reine. Mais enfin, ceci simplement à titre d'exemple pour nous montrer que nous ne pouvons triompher du mal, chasser les mauvaises pensées qu'en nous occupant des bonnes. Le mal se chasse par le bien. Et dans la pratique, si nous sommes en présence de choses qui nous tentent, une mauvaise lecture, eh bien on la remplace par une bonne. Il ne s'agit pas seulement de se juger, bien sûr, mais alors, comme on disait tout à l'heure, l'esprit reste vide. Occupons-nous du bien et cela chassera le mal. Avec, en famille, n'est-ce pas, prendre aussi un exemple pratique, voilà, des disputes dans la maison, dans la voiture, eh bien, un cantique pour remplacer cette atmosphère, pour l'élever. Voilà une manière de s'occuper de bonnes choses.
Ésaïe 32, il est intéressant de voir avec qui l'homme noble est mis en contraste. Et combien cela doit nous amener à prendre garde à ce qui est appelé dans ce chapitre 32 d'Ésaïe, la vilitude de l'homme, l'homme vil, que nous soyons gardés de paroles et de sentiments et d'actions viles, étant satisfaits et heureux d'être occupés de ce qui est noble ou vénérable. Au chapitre 32 d'Ésaïe, il est donc dit, dans le passage rappelé plusieurs fois, verset 5, L'homme vil ne sera plus appelé noble, et on ne dira pas l'avare généreux. L'homme vil dira des choses viles, et son cœur, notons tout d'abord les paroles, on parle, légèrement évidemment, superficiellement, et puis le cœur prend plaisir à ces choses. Son cœur commettra l'iniquité, et puis on en arrive alors à faire. Nos mains sont employées, il y a cela, commettre, pratiquer l'iniquité, l'impiété. Et pour dire l'erreur contre l'Éternel, voilà le contraste avec les choses vraies, comme on l'a entendu, contraste avec le mensonge au milieu duquel le monde se complaît. Et puis, pour rendre vide l'âme qui a faim et ôter la boisson à celui qui a soif, voilà l'expression d'un égoïsme notoire. On ne pense plus à celui qui a faim, à celui qui a soif, on le laisse dans sa situation misérable. Nous avons donc à prendre garde. On peut commencer par parler simplement, et puis on parle de plus en plus de choses qui sont viles. Et puis alors, le cœur peut y prendre plaisir. Et finalement alors, le cœur se nourrissant de ces choses-là, cela est grave, on en arrive à commettre l'impiété, l'erreur contre l'Éternel. Il semble bien que ces versets d'Ésaïe 32 sont à mettre en parallèle avec l'enseignement de notre chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens. Rechercher ce qui est noble, ce qui est vénérable, mais avoir en horreur ce qui est vil, ce qui est bas, ce qui n'est pas du tout selon Dieu.
S'il n'y a aucune sûreté dans le croyant, nous pouvons être debout aujourd'hui et demain on peut tomber dans une communion qui est interrompue avec le Seigneur. Et ça s'est vu de tout temps. Parce que le diable est là. Et puis il y a nos cœurs mauvais dans lesquels il y a la source du mal. Nous avons dans l'évangile de Marc, au chapitre 7-10, nous avons les apôtres Jacques et Jean, au verset 35, fils de Zébédée. Ils viennent au Seigneur, disant, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous tout ce que nous te demandons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils lui dirent, « Accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans la gloire. » Et Jésus de leur répondre, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Il y avait donc l'orgueil de la chair en eux. Ils pensaient à une place, et une place tout près du Seigneur, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il ne doit pas y avoir dans le cœur du croyant de telles ambitions. La seule chose qu'il doit y avoir, c'est de vivre avec lui aujourd'hui et d'une manière ininterrompue, et de juger le mal lorsqu'il se présente, mais que la communion ne soit en aucune manière interrompue et que l'orgueil du cœur ne se manifeste pas, car il est dans nos cœurs, cet orgueil.
Noblesse qui est tout autre que celle que évoque ce terme de vénérable. Il est frappant que l'on puisse évoquer effectivement le désir et qui répond à la convoitise naturelle, à l'orgueil de la vie, et qui est dans tout cœur humain, à propos de ce terme vénérable. Pour le dire en passant, c'est le même terme, ce n'est plus l'adjectif, mais c'est le nom, qui est traduit dans le chapitre 2 de la première épître à Timothée. Cela pourra surprendre, mais pourtant c'est ainsi. C'est honnêteté. Afin que vous conduisiez, n'est-ce pas, on est exhorté à prier pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Honnêteté, c'est donc une dignité morale, visible, en témoignage dans ce monde, accompagnée de gravité. Le même mot, c'est celui que nous trouvons dans cette même épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 14, je crois, verset 4, quand il est parlé du surveillant, dont il est dit, tenant ses enfants soumis en toute gravité. C'est là, cela va ensemble, cette dignité, en même temps cette gravité, qui appartiennent à celui qui est en relation avec Dieu. Le caractère de la noblesse selon Dieu apparaît. Et nous avons à être occupés de ces choses et à les reconnaître chez nos frères et sœurs quand nous en voyons quelques reflets. Et prendre l'exemple que l'apôtre peut donner de lui-même. Ceci seulement en passant, mais...
Oui, oui. C'est intéressant. Il semble que de toute manière, la notion de respect, ce terme de vénérabilité exprime cette idée du respect qui revient à celui qui est vénérable. Alors on comprend que quand on rencontre un frère duquel on peut parler de l'honnêteté, de la probité, d'un frère dont on peut parler de la gravité. Autrefois, nous avions tant de ces frères graves sur le plateau, on en a connu combien. Eh bien, ils étaient tout naturellement entourés d'un grand respect. Il semble quand même que le lien est clair entre ces différents termes, et toutes ces vertus morales sont également dignes d'un grand respect.
Les choses occupent vos pensées. Les pensées donc doivent être occupées de quelque chose. Et de l'occupation de ces pensées va résulter des fruits. Permettez que je rappelle ce que j'avais entendu dans mon enfance par un frère qui est auprès du Seigneur depuis de longues années déjà. L'explication qu'il nous donnait du dernier verset de Proverbe 30. Le verset 33 de Proverbe 30. Car la pression du lait produit le beurre, et la pression du nez fait sortir le sang, et la pression de la colère excite la querelle. Son explication était celle-ci. À s'occuper d'une chose bonne, il en résulte une meilleure. À s'occuper d'une chose délicate, on en porte préjudice. À s'occuper d'une chose mauvaise, il en résulte une plus mauvaise encore. Que ces choses occupent vos pensées, si ce sont des choses vraies, vénérables, etc., il en résultera un fruit à la gloire du Seigneur.
Les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures. Je pense que le sens est aussi clair qu'il peut être là. Car si nous sommes dans un monde de mensonges, c'est aussi un monde de souillure de toute manière, et d'injustice de tous côtés. Alors, le croyant, Paul était ainsi, est appelé à luire dans un tel monde. Même passage que chapitre 2 que nous citions tout à l'heure, n'est-ce pas ? Génération parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie. Vous êtes mis comme des lumières dans ce monde. Et en elle-même, la lumière qui est la lumière de Christ, bien entendu, est là. Ne la voilez pas. Ne la voilons pas. Laissons-la briller. C'est la lumière de Christ qui, en reluit, est un reflet magnifique dans les siens, mais nous le couvrons si souvent de tant de choses qui obscurcissent aux yeux de ceux qui nous entourent la vie qui est pourtant là.
Secret profond, profond pour réaliser et manifester dans le jugement de la chair ces caractères de la vie divine, c'est de regarder Jésus marcher. Voilà ce que. De le regarder parce que j'ai le désir de suivre le Maître et de le glorifier dans les petites choses qui peuvent me placer, dans la vie à la maison, dans la vie à l'atelier, dans la vie au bureau. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses. Ce qui est important, c'est de manifester les caractères de cette vie divine que nous avons reçue. Or, ce qui est important pour nous, c'est d'être plus souvent peut-être que nous le sommes dans le sanctuaire. Ensemble. C'est là que, sortant de là, pour faire nos occupations, nous pouvons emporter sans que nous le sachions. Il ne s'agit pas de le savoir. Pas s'il fait à nous de le savoir. Sans que nous le sachions, emporter quelque chose, quelque atmosphère ou quelque chose du sanctuaire dans lequel nous vivons d'habitude.
Vont toutes les choses qui sont aimables. Cela signifie, évidemment, qui attire les affections, qui attire sainement les affections. Il y a les choses aimables pour la chair. Ici, il s'agit évidemment d'autre chose. Mais ce qui apparaît propre à réchauffer l'amour, à l'animer, à en faire quelque chose qui contrasterait avec le rigorisme, la gravité dont il a été question à propos de Vénérable, n'a rien à voir avec la porte de prison, n'est-ce pas? Comprenons bien. Et alors ici, c'est le contraste avec cela. Et de même, alors, toutes les choses qui sont de bonne renommée, et puis, s'il y a maintenant quelques vertus, quelque énergie de la foi, joignez à votre foi la vertu, trouvons-nous dans la deuxième épître de Pierre, l'énergie, l'esprit prêt au combat lorsque cela est nécessaire. Et puis, quelques louanges, nous comprenons qu'il s'agit de louanges de la part de Dieu, de louanges de quelque chose de sujet de louange dans le chrétien que nous avons à rechercher, à trouver, et si il est possible, dans nos frères, à relever, comme Paul pouvait se présenter lui-même en exemple, quelques vertus et quelques louanges, oui, de la part de Dieu, alors que ces choses occupent vos pensées. Et comme cela a été rappelé à plusieurs reprises ce soir, que les bonnes pensées chassent les autres, et que l'erreur, les choses viles, les choses impures, les choses injustes, les choses repoussantes, les choses ayant une mauvaise renommée, oh, que tout cela soit remplacé par ces choses excellentes dont si elles occupent nos pensées, Et ainsi, par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit, comme cela vient de nous être rappelé, qui est la puissance de la vie, et si ces choses sont faites, alors véritablement, le Dieu de paix sera avec vous. Non pas qu'il soit toujours loin de vous, qu'il soit quelquefois loin de vous, mais vous en éprouverez la proximité, la présence et la communion de Dieu avec lui-même dans le Christ Jésus, assurément. Mais faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. La pensée étant ainsi occupée, notre faculté de penser, notre esprit, cœur et pensée, c'est tout cela, étant rempli des bonnes choses. C'est une puissance de vie qui opère pour cela en nous. La puissance divine, la puissance de l'esprit, et cette puissance qui met à mort, qui ou plutôt tient dans la mort le vieil homme, ce n'est pas notre puissance à nous. Nous n'avons aucune force en nous pour tenir le vieil homme dans la mort. Pour tenir dans le vieil homme, il faut la vie. Et c'est l'action de la vie, c'est l'opération de la vie, c'est l'opération de l'Esprit de Dieu en nous qui tient le vieil homme dans la mort. De tous côtés, et nous retrouvons la même pensée, n'est-ce pas? C'est que nous sommes sans pouvoir sur le mal, sinon par le bien. Et le bien est dans nos cœurs occupés de Christ. Nous revenons toujours là. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
N'avons-nous pas cette pensée dans l'Ancien Testament sous la plume d'un petit prophète, d'une façon un peu plus générale? Il n'est pas parlé du Dieu de paix, de sa présence avec nous, mais le prophète Amos, au chapitre 5 de son livre, parle d'un temps mauvais. Le sage gardera le silence, car c'est un temps mauvais. Qu'allons-nous faire dans ce temps mauvais? Verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien. Ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous. Si nous recherchons le bien et non le mal, nous avons alors dans l'Épître aux Philippiens un tableau détaillé de ce qui est bien et par voie de contraste de ce qui est mal. Eh bien, recherchons le bien et alors le Dieu, comme il est dit ici, des armées sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec nous.
Retenons encore ce qui a été souvent dit. Le caractère d'un homme est formé par ce qui gouverne son cœur. C'est l'enseignement qui vient d'être placé devant nous entre le mal et le bien, le mal chassé par le bien. Alors, un petit exemple, Moïse, descendant de la montagne, il est dit de lui, quelle chose heureuse pour cet homme de Dieu. Il avait parlé avec le Seigneur. Quelle était la conséquence? Il y avait un rayonnement que chacun pouvait contempler, pouvait admirer. Moïse ne le savait pas. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, mais il en était ainsi parce qu'il avait parlé avec lui. Il portait moralement le caractère de celui avec lequel il avait joui d'une telle intimité. Par contre, un dernier verset du prophète Ésaïe, au début, et chacun pourra le lire dans le chapitre 3, il s'agit du triste état d'Israël que le prophète condamne, que le prophète souligne, et que dit-il? En opposition avec la peau du visage de Moïse qui rayonnait, il est dit, parce que leur langue et leurs actions sont contre l'Éternel, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Il y avait aussi là le reflet extérieur de ce qui occupait leur cœur. Leur pensée, leur cœur était contre l'Éternel, leur visage le manifestait. Aussi bien que Moïse, le sien, il rayonnait d'avoir parlé avec lui.
Dis donc ici au verset 9e, ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi. Y avait-tu par l'apôtre, un témoignage visible, un rayonnement aussi. Il n'avait pas seulement enseigné ces choses que les Philippiens avaient reçues, il ne les avait pas seulement proclamées pour les faire entendre, mais il les avait manifestées. Et à cet égard, nous pouvons voir ce témoignage chrétien que chacun doit porter, pas seulement par des paroles, pas seulement en disant à ceux qui nous entourent que Jésus les aime, mais en montrant dans notre comportement tout entier que nous appartenons à Jésus, que Jésus soit visible en nous. Et pas seulement pour un apôtre, pas seulement pour quelqu'un qui aurait un ministère public, bien que ce soit certainement bien important, mais même pour des jeunes. D'ailleurs, Timothée, il est vrai qu'il avait un ministère à accomplir, mais il était jeune, et au chapitre 4 de la première épître, l'apôtre lui ordonne, au verset 11, « Ordonne ces choses et enseigne-les ». Il ajoute ensuite que personne ne méprise ta jeunesse, ce qui nous prouve donc la jeunesse de Timothée, mais il ajoute aussi « Mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté ». Donc il y avait un témoignage qui devait toujours correspondre aux paroles et à l'enseignement donné. Et ce témoignage, c'est la conduite, c'est le comportement, c'est toute notre attitude. L'apôtre Paul l'avait réalisé. Il était occupé dans ses pensées des choses vraies, vénérables, justes, pures, aimables, de bonne renommée. Il les avait enseignées, il en avait parlé, mais ceci était à tel point dans son cœur que cela était reflété sur son visage.
67.